Chapitre 16. Kimberly dit qu'il s'agissait d'une prime d'engagement. Ginica m'a dit que vous aviez passé des moments difficiles. Je vous en prie, ne refusez pas, dit-elle. Il ne serait pas venu à l'esprit d'Ifemelu de refuser le chèque. À présent, elle allait pouvoir payer certaines factures et faire un envoi à ses parents. Sa mère aimait les chaussures qu'elle lui avait expédiées, pointues, ornées de pompons, le genre qu'elle pouvait porter à l'église. « Merci !» dit-elle au téléphone avec un profond soupir et elle ajouta « Hobbins est venu me voir. » Ifemelu resta muette. « Quel que soit ton problème, je t'en prie, discute-en avec lui. » Ifemelu dit « D'accord » et parla d'autre chose. Quand sa mère lui raconta qu'ils avaient été privés d'électricité pendant 2 semaines, elle se sentit soudain étrangère et la maison lui parut lointaine. Elle n'arrivait plus à se souvenir de ce qu'était une soirée passée à la lueur des bougies. Elle ne lisait plus les nouvelles sur Nigeria.com parce que chaque titre, même le plus improbable, lui rappelait Obinze. Au début, elle se donna 1 mois. 1 mois pour permettre à son dégoût d'elle-même de se dissiper. Ensuite, elle l'appellerait. Mais 1 mois passa et elle continua à laisser Obinze derrière un mur de silence, se forçant à penser à lui aussi peu que possible. Elle supprimait ses emails sans les lire. Elle commençait à lui écrire, elle s'appliquait à rédiger un email, puis s'interrompait et l'effaçait. Elle aurait dû lui raconter ce qui était arrivé, et cette pensée lui était insupportable. Elle avait honte, elle avait fauté. Ginica lui demandait sans cesse ce qui n'allait pas, pourquoi elle avait chassé Obinze de sa vie, et elle répondait que ce n'était rien, qu'elle avait seulement besoin d'un peu de temps, et Ginica lui lançait un regard stupéfait. « Tu as seulement besoin d'un peu de temps ?» Au début du printemps, une lettre d'Obinze arriva. Un seul clic suffisait pour supprimer ses emails, et après le premier, elle n'avait aucun mal à effacer les autres, car il lui semblait impossible de lire le second si elle n'avait pas lu le premier. Mais une lettre était autre chose. Elle lui causa le plus grand chagrin qu'elle eût jamais éprouvé. Elle s'écroula sur son lit, tenant l'enveloppe à la main. Elle la huma, contempla l'écriture familière. Elle l'imaginait à son bureau dans le quartier des garçons, près de son petit réfrigérateur ronronnant, écrivant avec son calme habituel. Elle aurait voulu lire la lettre, mais elle ne pouvait se décider à l'ouvrir. Elle la posa sur sa table. Elle la lirait dans 1 semaine. Elle avait besoin 1 semaine pour rassembler son courage. Et elle lui répondrait, se promit-elle. Elle lui dirait tout. Mais 1 semaine plus tard, la lettre était toujours à la même place. Elle posa un livre par-dessus, puis un autre, et un jour elle disparut sous les dossiers et les livres. Elle ne la lirait jamais. Taylor était un enfant sage, puéril, un gamin espiègle, parfois si naïf qu'Ifemelu l'accusait à tort d'être niais. Mais Morgan, de 3 ans seulement son aînée, arborait déjà l'attitude boudeuse d'une adolescente. Elle était d'un niveau supérieur à son âge, abreuvée de cours de perfectionnement, et prenait les adultes de haut, comme si elle était au courant des sombres secrets de leur vie. Au début, Ifemelu ne l'aima pas, troublée par ce qu'elle prenait pour une antipathie avérée à son égard. Elle se montra réservée, parfois même froide envers Morgan durant les premières semaines, décidée à ne pas céder aux caprices de cette gracieuse enfant gâtée au nez constellé de taches de rousseur. Avec le temps, elle se prit d'affection pour elle, mais s'appliqua à n'en rien laisser paraître. Au contraire, elle se montrait ferme et impartiale, lui rendant son regard quand Morgan la dévisageait. Ce qui expliquait peut-être pourquoi Morgan lui obéissait. Elle le faisait avec froideur, indifférence, à contre-cœur, mais elle l'écoutait. Elle avait pris l'habitude d'ignorer sa mère. Et avec son père, ses regards mornes étaient pleins d'une curiosité perfide. Don rentrait à la maison et se dirigeait aussitôt vers le bureau, s'attendant à ce que tout s'arrête à cause de lui. Et tout s'arrêtait, sauf ce que Morgan était en train de faire. Kimberly virevoltait, s'empressait, demandait comment s'était passée sa journée, se mettait en 4 pour lui plaire, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'il soit revenu la retrouver. Taylor se précipitait dans les bras de Don. Et Morgan levait les yeux d'un livre, d'un jeu ou de la télévision pour l'observer, comme si elle voyait à travers lui, tandis que Don ne manifestait aucun embarras sous son regard pénétrant. Parfois, Ifemelu s'interrogeait. S'agissait-il de Don ? Trompait-il Kimberly et Morgan l'aurait-elle découvert ? L'infidélité était la première chose à laquelle on pensait, s'agissant d'un homme tel que Don, qui dégageait une telle sensualité. Mais peut-être se satisfaisait-il de simples provocations ? Il flirtait outrageusement, sans aller plus loin, parce qu'une liaison demandait un certain effort et qu'il était le genre d'homme qui prenait sans donner. Ifemelu repensa souvent à cet après-midi, peu après son arrivée, alors que Kimberly était sortie. Taylor jouait et Morgan lisait dans le bureau. Soudain, Morgan avait posé son livre, était monté calmement à l'étage et avait arraché le papier peint de sa chambre, renversant sa commode, ôtant brutalement le couvre-lit, déchirant les rideaux. Elle était à genoux et tirait de toutes ses forces sur la moquette collée quand Ifemelu était accouru et l'avait arrêtée. On eût dit un petit robot d'acier, se débattant pour se libérer, doté d'une force qui effraya Ifemelu. Peut-être cet enfant deviendrait-elle une tueuse en série, comme ces femmes dans les reportages criminels à la télévision que l'on voyait à moitié nue au bord des routes sombres pour attirer les conducteurs de camions avant de les étrangler. Quand Ifemelu finit par la relâcher, desserrant lentement son étreinte, Morgan ayant recouvré son calme, elle descendit au rez-de-chaussée et reprit sa lecture. Par la suite, Kimberly, en larmes, lui demanda « Ma chérie, je t'en prie, dis-moi ce qui ne va pas. » Et Morgan lui répondit « Je suis trop vieille pour tous ces trucs roses dans ma chambre. » Désormais, Kimberly emmenait Morgan deux fois par semaine chez un psychothérapeute à Bala Cynwyd. Don et elle se montraient plus hésitants devant elle, plus timides sous son regard accusateur. Quand Morgan gagna un concours de dissertation à l'école, Don rentra à la maison avec un cadeau pour sa fille. Kimberly se tint anxieuse au pied de l'escalier tandis qu'il montait lui remettre le cadeau, enveloppé de papier brillant. Il redescendit quelques instants plus tard. Elle n'a même pas voulu le regarder. Elle s'est levée, est allée dans la salle de bain et n'en est pas ressortie, dit-il. Je l'ai laissée sur le lit.
Ne t'inquiète pas, chérie. Elle va se calmer,
dit Kimberly, le serrant contre elle en lui massant le dos. Plus tard, Kimberly dit à mi-voix à Ifemelu
« Morgan est vraiment dure avec lui. Il fait tellement d'efforts. Et elle refuse d'aller vers lui. Elle refuse catégoriquement. »
Morgan ne va vers personne, dit Ifemelu. Don aurait dû se souvenir que c'était Morgan et pas lui qui était l'enfant.
« Elle vous écoute, vous ?»
dit Kimberly un peu tristement. Ifemelu aurait voulu dire « Je ne lui laisse pas le choix. » Elle aurait voulu que Kimberly ne se montre pas toujours aussi prête à céder. Peut-être Morgan avait-elle seulement besoin de sentir que sa mère était capable de résister. Mais elle dit « C'est parce que je ne suis pas de la famille. Elle n'a pas d'affection particulière pour moi. Elle n'éprouve pas ses sentiments compliqués à mon égard. » Au mieux, je suis juste quelqu'un qui l'embête.
Je ne sais pas ce que je fais de travers, dit Kimberly. C'est une phase. Cela passera, vous verrez.
Elle éprouvait un sentiment protecteur envers Kimberly. Elle avait envie de la défendre.
La seule personne qui l'intéresse est mon cousin Kurt. Elle l'adore. Quand nous avons des réunions de famille, elle reste dans son coin jusqu'à son arrivée. Je vais voir s'il peut passer lui parler.
Laura avait apporté un magazine.
« Regardez ça, Ifemelu, » dit-elle. « Ce n'est pas le Nigeria, mais presque. Je sais que les célébrités peuvent être frivoles, mais celle-ci semble faire du bon travail. »
Ifemelu et Kimberly jetèrent un coup d'œil sur la photo. Une femme blanche, mince, souriant à l'appareil, tenait un bébé noir africain dans ses bras, entouré d'autres bébés noirs étalés autour d'elle comme un tapis. Kimberly fit « comme si elle ne savait pas quoi en penser. « Qui plus est, elle est ravissante, » dit Laura. « Oui, c'est vrai, » dit Ifemelu. « Et elle est aussi maigre que les enfants, à la différence que sa maigreur est voulue et la leur involontaire. » Laura éclata d'un rire bref.
« Vous êtes vraiment drôle. J'adore vos manières culottées. »
Kimberly ne rit pas.
Plus tard, seule avec Ifemelu, elle confia. « Je regrette ce que Laura vous a dit. Je n'ai jamais aimé ce mot « culotté ». C'est le genre de mot qu'on emploie avec certaines personnes et pas avec d'autres. »
Ifemelu sourit, haussa les épaules et changea de sujet. Elle ne comprenait pas pourquoi Laura était tellement avide d'informations sur le Nigeria. Elle l'interrogeait sur la fraude au 419, lui rappelait combien d'argent les Nigérians d'Amérique envoyaient au pays chaque année. Une curiosité agressive, sans bienveillance. C'était étrange, en vérité, de montrer tant d'intérêt pour quelque chose qu'on n'aimait pas. La destinataire en était peut-être Kimberly. Laura visait peut-être sa sœur en faisant des remarques qui l'obligeaient à se répandre en excuses. Mais cela semblait beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Au début, Ifemelu apprécia les excuses de Kimberly, même si elles n'étaient pas nécessaires, puis elle commença à ressentir des éclairs d'impatience, car les regrets répétés de Kimberly étaient teintés de complaisance, comme si elle croyait pouvoir ainsi aplanir toutes les aspérités de la planète. Au bout de quelques mois, Kimberly demanda à Ifemelu :
Pourriez-vous envisager d'habiter ici ? Le sous-sol est en réalité un appartement d'une chambre avec une entrée privée. Il n'y aurait pas de loyer à payer, bien entendu.
Ifemelu était en train de chercher un studio, impatiente de quitter ses colocataires maintenant qu'elle en avait les moyens, et elle n'avait pas envie d'être davantage impliquée dans la vie des Turner. Pourtant, elle faillit accepter, car elle avait perçu une prière dans la voix de Kimberly. Elle décida finalement qu'elle ne pourrait pas vivre avec eux. Quand elle refusa, Kimberly lui proposa d'utiliser leur deuxième voiture.
« Cela vous sera beaucoup plus pratique pour venir ici après vos cours. C'est une antiquité. Nous nous apprêtions à la donner. J'espère qu'elle ne vous laissera pas en plan au bord de la route. »
dit-elle, comme si la Honda, vieille de quelques années à peine, sa carrosserie intacte, risquait de la laisser en rade.
« Vous ne devriez pas me confier votre voiture pour aller chez moi. Et si un jour je ne revenais pas ?»
Kimberly se mit à rire.
« Elle ne vaut pas grand-chose. »«
Vous avez un permis américain, je suppose ?»
demanda Laura.
« Je veux dire, vous pouvez conduire légalement dans ce pays. »«
Bien sûr qu'elle le peut, Laura !» dit Kimberly. « Pourquoi accepterait-elle la voiture si elle ne le pouvait pas ?»«
Je vérifiais seulement, » dit Laura, comme si on ne pouvait pas faire confiance à Kimberly pour poser les questions épineuses, obligatoires, à des non-américains. Ifemelu les regardait, toutes les deux si semblables en apparence et toutes les deux malheureuses. Mais la détresse de Kimberly était intérieure, inavouée, masquée par son désir que les choses soient comme elles devaient être, atténuée par l'espoir. Elle croyait dans le bonheur des autres, car cela signifiait qu'elle aussi pourrait un jour l'atteindre. La détresse de Laura était différente. Aigrie, elle souhaitait que tout le monde autour d'elle soit malheureux parce qu'elle s'était convaincue qu'elle le serait toujours.
« Oui, j'ai un permis américain, » dit Ifemelu,
et elle leur parla du cours de conduite qu'elle avait suivi à Brooklyn avant de passer son permis et raconta comment le moniteur, un blanc maigrichon aux cheveux couleur paille, avait délibérément triché. Dans une pièce en sous-sol, mal éclairée, pleine d'étrangers, à laquelle on accédait par un escalier étroit encore plus sombre, le moniteur avait ramassé tous les paiements en liquide avant de projeter un film sur les règles de sécurité au volant. De temps à autre, il faisait des plaisanteries que personne ne comprenait et riait tout seul. Ifemelu avait des doutes sur le film.
Comment une voiture roulant si lentement pouvait avoir provoqué de tels dégâts dans un accident, dont le cou brisé du conducteur?
Il avait ensuite distribué les questions du test. Ifemelu les avait trouvées faciles, cochant rapidement les réponses au crayon. Un petit homme originaire d'Asie du Sud-Est était assis à côté d'elle. Âgée d'une cinquantaine d'années, il lui lançait des regards suppliants tandis qu'elle feignait de ne pas comprendre qu'il lui demandait de l'aider. Le moniteur avait commencé à ramasser les copies, pris une gomme couleur argile et s'était mis à effacer une partie des réponses et à cocher les autres. Tout le monde avait été reçu. Beaucoup lui serrèrent la main en disant « Merci, merci !» avec les accents les plus variés avant de sortir à tour de rôle de la pièce. Ils pouvaient maintenant faire la demande de leur permis américain. Ifemelu raconta l'histoire avec une feinte ingénuité, comme s'il s'agissait simplement d'une attitude curieuse à ses yeux et non d'un fait qu'elle avait délibérément choisi pour provoquer Laura. «
Ce fut une expérience surprenante pour moi. parce que je croyais que personne ne trichait en Amérique, dit-elle. Kimberly s'exclama. « Oh mon Dieu !»«
Cela se passait à Brooklyn ?» demanda Laura.
« Oui. » Laura haussa les épaules comme pour dire que c'était quelque chose qui pouvait arriver à Brooklyn, naturellement, mais pas dans l'Amérique dans laquelle elle vivait. Ce n'était qu'une simple orange. Une orange bien ronde, couleur de feu, qu'Ifemelu avait apportée avec son déjeuner, épluchée et divisée en quartiers, à l'abri dans un sac en plastique. Elle la mangeait à la table de la cuisine pendant que Taylor faisait ses devoirs assis près d'elle.
« Tu veux goûter, Taylor ?» demanda-t-elle, et elle lui en offrit un quartier.
« Merci, » dit-il. Il le mit dans sa bouche. Son visage se crispa.
« Oh, elle n'est pas bonne, il y a des trucs dedans !»«
Ce sont les pépins, » dit-elle, regardant ce qu'il avait craché dans sa main.
« Les pépins ?»«
Oui, des pépins d'orange. »«
Les oranges n'ont pas de trucs à l'intérieur. »«
Si, elles en ont. Jette ça à la poubelle, Taylor. Je vais te passer la vidéo de ton cours. »«
Les oranges n'ont pas de trucs à l'intérieur, » répéta-t-il.
Toute sa vie, il avait mangé des oranges sans pépins, des oranges cultivées pour ressembler à une orange parfaite, avoir une peau sans défaut et aucun pépin. Si bien qu'à 8 ans, il ne savait pas qu'il existait cette chose curieuse, une orange avec des pépins. Il courut jusqu'au bureau pour annoncer la nouvelle à Morgane. Elle leva les yeux de son livre, souleva lentement une main lasse et coinça une mèche rousse derrière son oreille.
« Bien sûr que les oranges ont des pépins. Maman achète la variété qui n'en a pas. Ifemelu n'a pas acheté la bonne sorte. »
Elle jeta à Ifemelu un de ses habituels regards accusateurs. « Cette orange me convient parfaitement, Morgane. J'ai toujours été habituée à manger des oranges qui ont des pépins, » dit Ifemelu lançant la vidéo.
« Ok. »
Morgane haussa les épaules. En présence de Kimberly, elle n'aurait rien dit, lui aurait seulement jeté un regard noir. La sonnette de la porte retentit. C'était sans doute le nettoyeur de tapis. Kimberly et Don donnaient un cocktail le lendemain pour collecter des fonds au profit d'un de leurs amis au sujet duquel Don avait dit « Il veut se présenter au Congrès uniquement pour satisfaire son ego. Il n'a pas la moindre chance d'être élu. » Et Ifemelu s'était étonné qu'il fût sensible à l'ego d'autrui alors qu'un brouillard épais semblait l'aveugler lorsqu'il s'agissait du sien. Elle alla à la porte. Un homme de forte carrure, au teint rougeau, se tenait sur le seuil, chargé d'appareils de nettoyage, une partie suspendue à son épaule, un engin qui ressemblait à une tondeuse à gazon posée à ses pieds. Il se raidit quand il la vit. La surprise envahit d'abord son visage, avant de se charger d'hostilité.
« Vous avez une moquette à faire nettoyer ?»
demanda-t-il comme si ça ne l'intéressait pas, comme si elle pouvait changer d'avis, comme s'il souhaitait qu'elle change d'avis. Elle le regarda d'un air un peu moqueur, prolongeant un moment lourd de suppositions. Il pensait qu'elle était la propriétaire de la maison, et elle n'était pas la personne qu'il s'était attendu à trouver dans cette grande maison de pierre encadrée de colonnes blanches.
« Oui ?» dit-elle enfin, soudain lasse.
« Madame Turner m'a prévenue de votre passage. » Comme par magie, toute hostilité quitta l'homme. Son visage se liquéfia dans un sourire. Elle aussi était employée. L'univers était à nouveau organisé comme il devait l'être.
« Salut. Vous savez par où elle veut que je commence ?»«
Par le haut, » dit-elle en le faisant entrer, se demandant comment toute cette jovialité avait pu exister auparavant chez cet homme. Elle ne l'oublierait jamais, avec ses bouts de peau mortes qui se détachaient de ses lèvres gercées, et elle commencerait le poste de son blog « Parfois en Amérique, la race est la classe », avec le récit de ce changement spectaculaire, et le conclurait ainsi. Peu lui importait combien je gagnais. Pour lui, je ne correspondais pas à l'image de la propriétaire de cette maison majestueuse, à cause de mon apparence. Dans le discours officiel américain, les Noirs, en tant que groupe, sont souvent mis dans la même catégorie que les Blancs pauvres. Pas les Noirs pauvres avec les Blancs pauvres, mais les Noirs et les Blancs pauvres. C'est curieux, en vérité. Taylor était tout excité.
« Est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que je peux t'aider ? »
demanda-t-il.
« Non, merci, fiston, » dit l'homme. « J'ai la situation en main. » J'espère qu'il ne va pas commencer par ma chambre, dit Morgane.
Pourquoi ?
Demanda Ifemelu. Je n'en ai pas envie, c'est tout.
Ifemelu voulait raconter l'histoire du nettoyeur de tapis à Kimberly, mais celle-ci aurait pu se troubler, s'excuser de quelque chose dont elle n'était pas responsable, comme elle s'excusait souvent, trop souvent, pour Laura. C'était déconcertant de l'avoir tergiversée, toujours avide de bien faire sans savoir comment. Si Ifemelu lui parlait du nettoyeur de tapis, il était impossible de prévoir comment elle réagirait, en riant, en s'excusant, en s'emparant du téléphone pour appeler la société et se plaindre. Elle préféra donc parler de Taylor et de l'orange.
Il a vraiment cru que les pépins signifiaient qu'elle était mauvaise ? C'est drôle. Morgane, naturellement, l'a vite détrompée.
Ah, c'est tout à fait elle.
Quand j'étais petite, ma mère me disait qu'une orange me pousserait sur la tête si j'avalais un pépin. J'ai passé des matins entiers à m'inquiéter et à aller vérifier dans la glace. Au moins Taylor aura évité ce traumatisme d'enfance.
Kimberly se mit à rire.
Bonjour !
C'était Laura qui entrait par la porte de derrière avec Athéna. Une petite chose avec des cheveux si fins qu'on voyait la peau pâle de son crâne à travers. Les légumes passés au mixeur et les strictes règles diététiques de Laura en avaient peut-être fait une fillette souffrant de malnutrition. Laura posa un vase de fleurs sur la table.
« Elles seront superbes demain. »«
C'est ravissant !»
dit Kimberly en se penchant pour déposer un baiser sur la tête d'Athéna.
« Voilà le menu du traiteur. Don pense que le choix de hors d'œuvre est trop simple. Je n'en suis pas sûre. »«
Il veut que tu en rajoutes ?»
demanda Laura, parcourant rapidement le menu.
« Il a seulement jugé que c'était trop simple. Il l'a dit très gentiment. »
Dans le petit salon, Athéna se mit à pleurer. Laura alla la voir et bientôt une série de négociations s'ensuivit.
« Tu veux celui-ci, ma chérie ? Le jaune ? Le bleu ou le rouge ? Lequel veux-tu ? »
« Donnez-lui en un et qu'on n'en parle plus, » pensa Ifemelu.
Accablée de choix, une enfant de 4 ans, lui imposer l'obligation de prendre une décision revenait à la priver du bonheur d'être enfant. L'âge adulte, de toute façon, pointait déjà à l'horizon, moment où elle aurait à prendre des décisions de plus en plus pénibles.
Elle est de mauvaise humeur aujourd'hui,
dit Laura en regagnant la cuisine, les pleurs d'Athéna apaisées. Je l'ai emmenée faire une visite de contrôle pour son infection de l'oreille et elle a été infernale toute la journée. À propos, j'ai rencontré le plus exquis des hommes aujourd'hui, un Nigérian. Nous arrivons là-bas et il se trouve qu'un nouveau médecin fait depuis peu partie du cabinet et qu'il est Nigérian. Il est passé nous dire bonjour. Il m'a fait penser à vous, Ifemelu. J'ai lu sur Internet que les Nigérians étaient le groupe d'immigrants le plus instruit des États-Unis. Bien sûr, on ne parle pas des millions qui vivent avec moins $1 par jour dans votre pays. Mais quand j'ai rencontré ce docteur, j'ai pensé à cet article, et à vous, et aux autres Africains privilégiés qui vivent ici en Amérique.
Laura s'interrompit et Ifemelu, comme souvent, eut l'impression qu'elle avait d'autres choses à dire, mais les gardait pour elle.
Il lui sembla étrange d'être considérée comme une privilégiée.
Les privilégiés étaient des gens comme Kayode da Silva, dont le passeport débordait de timbres de visa, qui passait l'été à Londres et allait nager au Ikoyi Club, qui pouvait se lever et dire avec un parfait naturel « Allons prendre une glace chez French's. »
« On ne m'a jamais traité de privilégiée de ma vie, » dit Ifemelu.
« C'est amusant. »
« Je crois que je vais changer et le prendre comme médecin pour Athéna. Je l'ai trouvé merveilleux, très bien habillé, et il s'exprime parfaitement. De toute façon, je ne suis pas véritablement satisfaite du docteur Bingham depuis que le docteur Hoffman est parti. »
Laura reprit le menu.
« À l'université, j'ai connu une Africaine qui ressemblait beaucoup à ce médecin. Elle était originaire de l'Ouganda. Elle était merveilleuse, mais ne s'entendait pas du tout avec l'afro-américaine qui était dans notre classe. » Elle n'avait pas tous ses problèmes.
Peut-être que lorsque le père de l'afro-américaine était interdit de vote parce qu'il était noir, le père de l'ougandaise se présentait au Parlement ou était étudiant à Oxford,
dit Ifemelu.
Laura la regarda, fit mine d'être troublée.
Excusez-moi, y a-t-il quelque chose qui m'aurait échappé?
Je pense seulement que c'est une comparaison simpliste. Vous devriez connaître un peu mieux l'histoire. Les coins de la bouche de Laura s'abaissèrent. D'abord sidérée, elle se reprit.
« Bon, je vais chercher ma fille et emprunter quelques livres d'histoire à la bibliothèque, si je suis capable d'imaginer à quoi ils ressemblent. »
dit Laura, et elle quitta la pièce. Ifemelu pouvait presque entendre battre le cœur de Kimberly.
« Je suis désolée, » dit-elle.
Kimberly secoua la tête et murmura. « Je sais que Laura peut se montrer provocante. » sans quitter des yeux la salade qu'elle était en train de remuer. Ifemelu monta rejoindre Laura. « Je regrette. J'ai été grossière tout à l'heure et je m'en excuse. »
Mais elle ne s'excusait qu'à cause de Kimberly, de la façon dont elle s'était mise à remuer la salade, comme si elle voulait la réduire en purée.
« Ce n'est pas grave, » dit Laura en reniflant, sans cesser de lisser les cheveux de sa fille. Et Ifemelu comprit qu'elle resterait longtemps drapée dans le pashmina des offensés. Hormis un bonjour sec, Laura ne lui adressa pas la parole à la réception du lendemain. La maison s'emplit d'un brouhaha assourdi, d'invités qui portaient leur verre de vin à leurs lèvres. Ils se ressemblaient tous dans leur tenue plaisante et correcte, avec leur sens de l'humour plaisant et correct, et comme tant d'autres Américains de la classe bourgeoise supérieure, ils utilisaient trop souvent le mot « merveilleux ».
« J'espère que vous viendrez nous aider pour le cocktail, n'est-ce pas ?»
avait demandé Kimberly à Ifemelu, comme elle le faisait toujours à l'occasion de ce genre d'événement. Ifemelu ne saisissait pas très clairement en quoi elle se rendait utile, car ses réunions étaient confiées à un traiteur et les enfants montaient se coucher tôt, mais elle percevait dans le ton léger de l'invitation de Kimberly quelque chose qui dénotait un besoin. Pour une raison qui lui échappait en partie, sa présence semblait rassurer la jeune femme. Si Kimberly voulait qu'elle soit là, alors elle serait là.
Voici Ifemelu, notre babysitter et mon ami, disait Kimberly en la présentant à ses invités.
Vous êtes ravissante, lui dit en souriant un homme aux dents d'un blanc éclatant. Les Africaines sont superbes, particulièrement les Éthiopiennes.
Un couple racontait son safari en Tanzanie. Nous avions un guide merveilleux et nous avons pris en charge les frais d'éducation de sa première fille.
Deux femmes parlaient de leurs dons à un merveilleux organisme humanitaire au Malawi qui forait des puits, à un merveilleux orphelinat au Botswana, à une merveilleuse banque coopérative au Kenya. Ifemelu les observait. Il y avait une certaine notion de luxe attachée à la charité à laquelle elle ne pouvait s'identifier et qu'elle ne partageait pas. Considérer la charité comme allant de soi, savourer cette bienfaisance envers des gens qu'on ne connaissait pas. Cela tenait peut-être au fait d'avoir possédé hier, de posséder aujourd'hui et de s'attendre à posséder demain. Elle les enviait. Une petite femme en veste rose stricte disait « Je suis présidente du conseil d'administration d'un organisme humanitaire au Ghana. Nous travaillons avec les femmes en milieu rural. Nous sommes toujours attentifs à engager des employés africains. Nous ne sommes pas le genre d'ONG qui n'utilise pas les travailleurs locaux. » Si jamais vous cherchez du travail après votre diplôme et que vous voulez retourner en Afrique, faites-moi signe.
Merci.
Ifemelu eut soudain envie désespérément d'appartenir à un pays qui donnait et non à un pays qui recevait, de faire partie de ceux qui possédaient et de baigner dans le bonheur d'avoir donné, de se compter parmi ceux qui pouvaient faire étalage de pitié et d'empathie généreuse. Elle sortit sur la terrasse à la recherche d'air frais. De l'autre côté de la haie, elle vit dans l'allée de la maison voisine la nounou jamaïcaine des enfants, celle qui évitait son regard et n'aimait pas lui dire bonjour. Puis elle remarqua un mouvement à l'autre extrémité de la terrasse. C'était Don. Il y avait quelque chose de furtif dans son attitude et elle devina, plutôt qu'elle ne vit, qu'il venait de terminer une conversation au téléphone.
« La fête est une réussite, » lui dit-il. « Juste une excuse pour inviter quelques amis. » Roger n'est absolument pas de taille et je lui ai dit qu'il n'avait pas l'ombre d'une chance. »
Il continuait à parler, d'une voix trop affable, tandis que l'antipathie saisissait Ifemelu à la gorge. Don ne s'adressait pas ainsi à elle en général. Il donnait trop d'explications, parlait trop. Elle aurait voulu lui dire qu'elle n'avait rien entendu de sa conversation au téléphone, s'il y avait eu quelque chose à entendre, qu'elle ne savait rien et ne voulait rien savoir.
« Ils doivent se demander où vous êtes ?» dit-elle.
« Oui, il faut rentrer, » dit-il comme s'ils étaient sortis ensemble. De retour à l'intérieur, Ifemelu vit Kimberly au milieu du salon, un peu à l'écart de son cercle d'amis. Elle avait cherché Don et quand elle le vit, son regard se posa sur lui et son visage s'adoucit, libéré de son inquiétude. Ifemelu quitta tôt la réception. Elle avait envie de parler à Dike avant qu'il soit couché. Tante Uju décrocha. « Est-ce que Dike dort déjà ?» lui demanda Ifemelu. « Il se lave les dents, » répondit-elle. Puis elle ajouta en baissant la voix, « Il m'a encore interrogé à propos de son nom. » « Que lui as-tu dit ?»«
La même chose. Tu sais, il ne m'a jamais posé cette question avant notre déménagement. »
« C'est peut-être à cause de la présence de Bartholomew et du nouvel environnement. Il avait l'habitude de t'avoir pour lui tout seul. »
« Cette fois, il n'a pas demandé pourquoi il portait mon nom. Il a demandé s'il portait mon nom parce que son père ne l'aimait pas. »«
Tante, peut-être est-il temps de lui dire que tu n'étais pas une seconde épouse. » »«
J'étais pratiquement une seconde épouse. »
Tante Uju avait pris un ton de défi, presque exaspérée, décidée à préserver le secret de son histoire personnelle. Elle avait dit à Dike que son père faisait partie du gouvernement militaire, qu'elle était sa seconde épouse et qu'il lui avait donné son nom à elle pour le protéger, parce qu'il y avait des gens au gouvernement, pas son père, qui avaient commis de mauvaises actions.
« Bon, je te passe Dike, » dit-elle d'une voix normale.
« Salut, Coz ! Tu aurais dû voir comment j'ai joué au foot aujourd'hui. Comment peux-tu marquer tous ces buts quand je ne suis pas là ? Est-ce que tu les as marqués en rêve ?»
demanda Ifemelu. Il rit. Il riait toujours facilement, son sens de l'humour inchangé, mais il avait perdu sa candeur depuis leur installation dans le Massachusetts. Un voile l'enveloppait, il était devenu plus secret, la tête perpétuellement penchée sur sa Game Boy, levant les yeux de temps en temps pour regarder sa mère et le monde, avec une lassitude trop lourde pour un enfant. Ses notes en classe déclinaient. Tante Uju le menaçait plus fréquemment. À sa dernière visite, Ifemelu l'avait entendu lui dire « Si tu recommences, je te renvoie au Nigeria », en lui parlant Igbo, ce qu'elle faisait seulement quand elle était en colère. Et Ifemelu craignait que cela devienne pour lui le langage des conflits. Tante Uju, elle aussi, avait changé. Au début, elle avait paru pleine de curiosité, d'espoir concernant sa nouvelle existence.
Tout est si blanc dans cette ville, avait-elle dit.
Sais-tu que je suis allée au drugstore pour acheter en vitesse du rouge à lèvres parce que le centre commercial est à une demi-heure d'ici et toutes les teintes étaient trop pâles. Ils ne peuvent pas avoir en stock ce qu'ils ne peuvent pas vendre. Au moins l'endroit est calme et reposant et je ne crains pas de boire l'eau du robinet, ce que je n'aurais jamais osé faire à Brooklyn.
Lentement, au fil des mois, son ton s'aigrit.
L'institutrice de Dike prétend qu'il est agressif, dit-elle un jour à Ifemelu, après avoir été convoquée par le directeur.
Agressif, tu te rends compte? Elle veut qu'on le mette dans ce qu'ils appellent une classe spéciale d'éducation, où il sera seul et où ils feront venir quelqu'un qui est formé pour s'occuper d'enfants à problème. J'ai dit à cette femme que ce n'est pas mon fils qui est agressif, que c'est son père à elle.
Regardez-le! Juste parce qu'il est différent, quand il se conduit comme tous les autres petits garçons, on le juge agressif. Alors le directeur m'a dit « Dike est comme nous tous, nous ne voyons aucune différence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui ai dit de regarder mon fils. Il n'y a que deux enfants comme lui dans toute l'école. Et encore l'autre est métisse, si clair que de loin on ne voit même pas qu'il est noir. Mon fils tranche complètement avec les autres. Alors comment peuvent-ils dire qu'ils ne voient aucune différence ? J'ai refusé catégoriquement qu'on le mette dans une classe spéciale. Il est plus intelligent que tous les élèves réunis. Il voudrait déjà lui coller une étiquette. Kemi m'a mise en garde à ce sujet. Elle dit qu'ils ont essayé de faire la même chose pour son fils dans l'Indiana. »
Par la suite, les critiques de Tante Uju s'appliquèrent à son programme d'internat, qu'elle trouvait limité et archaïque, avec des dossiers médicaux encore tenus à la main et rangés dans des classeurs poussiéreux. Quand elle eut terminé son internat, elle se plaignit alors des patients qui pensaient lui faire une faveur en venant la consulter. Elle mentionnait à peine Bartholomew. On eût dit qu'elle vivait seule avec Dike dans la maison du Massachusetts au bord du lac.